regardé par les champignons dans le futur.
Stop, capitaine, arrêtez tout!
Oh, mais j'ai même pas goûté!
Goûté quoi? Et qu'est-ce que vous faites au juste?
Ben, je me tire une bière. C'est pas ça que vous avez ordonné?
Pas du tout, je... Ah,
mais vous allez la fermer, oui? Plus personne s'entend avec ce refus!
Ben, qu'est-ce qu'il leur prend? Je les engueule et ils m'acclament, c'est débile!
Ben, vous pouvez crier ce que vous voulez, votre excellence. Ils parlent pas la langue.
Ah non?
Ben non, ils parlent pas toi.
Ah, donc quand ils gueulent Liberia depuis 3 heures, ça n'a rien à voir avec une colonie africaine?
Non, non, Liberia, ça veut dire libéré en patois.
Ah, d'accord! Il faut quand même aucun effort pour qu'on se comprenne.
Ouais, c'est bon, Liberia, on fait ça, tout bien,
Allez, emballé, c'est pesé. C'est quoi comme bière, en fait?
C'est la réserve du cardinal, votre excellence.
Ah, oui, je vois. Bah, distribuez-en à tout le monde, ça ferait une boisson populaire.
Vous savez, la binge ne fait pas le moine.
Tant mieux, je n'ai aucune intention de rentrer dans les ordres. C'est moi qui les donne, les ordres. La carotte et le bâton, il n'y a que ça de vrai.
Parmi les acteurs de la journée des bâtons, nous trouvons une foule de moratois et de gruyériens venus faire pression sur le pouvoir, bâtons en main, afin de réviser la constitution cantonale. La tension monte, l'ordre de tirer sur la foule est donné lorsque le patricien libéral Joseph de Disbar sort du bâtiment et apaise tout le monde. Les autorités décident par 111 voix contre une de réviser la constitution sans donner le contenu de cette révision. Et pour la démocratie, il faudra attendre encore un peu. Si vous voulez plus d'infos historiques sur cet épisode, rendez-vous sur le compte Instagram, les histrions en un mot.
Radio FR,
Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Oui. Il est l'heure de retrouver Heidi.
Bonjour Heidi.
Bonjour les amis.
Okay, on est très chansons aujourd'hui.
On est très chansons. Moi j'en ai une, ça commence bien. C'est le bilan pour tout le monde. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. On s'évalue, on se plaint, on râle. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Alors bon, râler,
c'est mignon.
C'est normal, je suis française. Se plaindre, c'est pas mon genre, pas du tout. Et ben s'évaluer, ben pour moi c'est la première fois. Et ben vous voulez que je vous dise? Même pas mal. Sérieux,
ah ouais,
ben voilà. Donc voilà pour le bilan, hein. Rapide, net, précis. J'aime bien ça. Elle est comme ça.
Non, carré, hein.
Très énergique.
Comme une Suisse allemande.
Ouais, non, vous voyez, je m'intègre. Alors, Noël, c'est Noël, c'est bientôt Noël. Super, les cadeaux, les dindes, les truffes, bref, que du beau monde autour de la table. Le seul problème, c'est le froid. Vraiment, ça craint ici, hein. Franchement, je dois vous le dire, ça craint. Moi, je me galère. La zermie. Sans rire, c'est la folie, quoi. Mais vous avez vraiment peur de rien, vous. Hein. Zéro peur, zéro froid. Mais pour moi, ça le fait pas du tout. Hein. J'ai trop de la peine à vivre normalement, moi, ici. 5 pulls, 2 manteaux, mode bibindome, je dépareille dans le paysage. Franchement.
On voit, c'est que même ici où il fait chaud, dans le studio, elle a des couches,
quand même,
incroyable.
Ouais. J'ai 2 t-shirts et 1 pull en laine, en vraie laine. Eh ben, mais ça va venir, hein, je vous promets. Je m'intègre petit à petit. Je suis à fond, bientôt bilingue, un suisse allemand irréprochable, et puis sûrement après, je vais me mettre à l'italien, et puis je finirai par le bol, c'est un dieu.
Est-ce que vous pouvez nous faire une petite phrase suisse allemand, là, pour voir
Wo bist du, Rio?
Ja, ich bin da.
C'est bon, c'est un début.
Good, sehr gut.
Ah ouais, c'est merveilleux.
Donc voilà pour la première résolution pour moi, 2009. Ciao.
Super.
La deuxième résolution, tenter de faire passer un petit message aux jeunes demoiselles de par ici. Je peux me permettre?
Oui, bien sûr.
Madame, s'il vous plaît. Parce que j'ai assisté à quelque chose dans mon village, quelque chose qui était limite à m'énerver, hein, parce que j'adore mon village, alors j'aime bien râler dessus. Vous savez qu'il y a parfois dans le sous-sol des auberges au village, une espèce de club pour les jeunes avec de la musique à fond la caisse à vous briser les tympans, si c'est pas autre chose pour certains. La lumière est aussi un petit peu tamisée, etc., très intime. Et puis le soir, je vais à l'auberge de mon village, un peu tard, hein, minuit à peu près, puis je vois 3 jeunes filles en nuisette, légèrement ivres, devant l'entrée du bar. Dehors, il devait faire quand même moins 8.
En nuisette?
En nuisette. Elles étaient en nuisette, c'est fort. Hein. Quand je vous dis, vous avez zéro peur. Alors, je me suis approchée de l'antre d'où sortaient ces naïades qui n'avaient pas 18 ans. Eh bien, ces fillettes venaient de participer à la soirée bikini organisée par ce bar. Si tu viens en bikini, t'as des réductions sur les boissons.
Oh là, ah, ouais.
Vous savez, ce genre de truc bien macho.
Et sur les médicaments aussi.
Voilà. Ça, on le dit pas. Donc, à quand la soirée caleçon? On se le demande. Donc, je récapitule pour vous situer l'ambiance très whiz des filles mineures en nuisette, un peu saoule, à minuit, en plein hiver. Il n'y a pas un truc qui cloche.
Ouais, quand même.
Moi, non, si, hein. Moi si, puis ça m'énerve. Alors, je veux pas faire la mort à la personne, parce que ça, c'est abusé. Mais perso, j'ai pas l'habitude de ça. Hein. Même si je viens de Paris, de la banlieue, et puis que ça craint et tout, on n'est pas du tout habitué.
Vous êtes pas en nuisette à Paris.
Non, c'est trop compliqué d'être en nuisette à Paris. C'est très dangereux, attention. Donc, j'aimerais m'adresser au proprio de cet établissement légèrement douteux dans mon village. Chouchou, mets la musique un peu moins fort. Rallume la lumière, puis là, tu vas pouvoir surveiller tes jeunes lascars. Mais j'ai aussi un souhait pour 2009, pour mes jeunes amies qui habitent dans mon village chéri, qui seront grandes un jour si elles passent pas leur soirée à poil devant les bars la nuit en hiver. Alors, voici mon...
Balance.
Non, mais ça m'a énervé. Hein.
Ouais, oui,
Voici mon souhait pour vous, mesdemoiselles. Si les adultes, ils sont pas à la hauteur. S'ils vous laissent dépasser les limites de votre enfance chérie, faites gaffe. S'il vous plaît, les filles, méfiez-vous. C'est pas pour vous faire plaisir, ça, je pense pas. C'est même certainement un piège à loup. Alors, il faut être plus futé que ça, les nanas, quoi. Sérieux. Et n'ayez pas peur, surtout, de dire que ça vous plaît pas, nom d'un Zeus. Vous serez pas plus mal vu que d'habitude au village. Je vous promets.
Même en Abitski.
Voilà. Alors, je n'aurai qu'un mot pour le 2009. Le piège à loup, c'est pas pour nous.
Le piège à loup, c'est pas pour nous. Radio FR. Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Belle.
Jamais 203.
C'est un peu plus qu'une enquête musicale aujourd'hui. On va jouer avec les paroles des titres que je vous ai sélectionnés, puisque dans ces paroles, en anglais, notre cerveau peut un peu halluciner et trouver des paroles en français.
Okay. Et
oui, les hallucinations auditives qui sont le résultat de la prononciation et l'enchaînement des mots. On a l'impression d'entendre quelques mots en français.
Donc, t'as compris, David, ce qu'il dit.
Voilà,
c'est bien.
Vous suivez. Vous suivez. Attention, message important, une petite précaution d'usage avant de démarrer. Je vous préviens, vous n'allez plus entendre les titres que je vais vous faire écouter de la même manière après ça.
Ah, d'accord.
Vous entendrez toujours les petits mots en français, mais vous pourrez des titres. Attention, donc c'est la précaution d'usage qui est donc passée. On commence avec un titre en exemple que je vous avais déjà fait découvrir dans Jamais 203 il y a très longtemps, parce que j'ai déjà fait une hallucination auditive il y a...
Je pensais que c'était de l'inédit, même pas alors.
Si, c'est de l'inédit, absolument.
Ouais.
Pour vous remettre en jambes,
l'exemple,
Je vous ai sélectionné quelque chose que j'ai déjà fait écouter, parce que c'est vraiment un des meilleurs exemples. C'est Metallica avec le titre de Unforgiven. Je vous fais écouter un petit extrait, vous allez essayer de détecter quelque chose.
On est dans le choc de l'enclume, là.
Voilà, exactement. Est-ce que vous avez détecté quelque chose? Est-ce que ça avait quelque chose? Moi, maintenant que je le sais, je l'entends.
Ah ouais, quand on le sait, c'est facile. Hein.
Alors, ils disent, nous battons des œufs et cuit-cuit, ils sont durs. Avec l'accent, ils sont durs.
Ah non, mais une fois qu'on l'a dit, on le voit. C'est comme quand quelqu'un te dit, regarde le nuage, tu vois rien, tu dis non. Mais oui, regarde, c'est la forme d'un chien. Puis, ah oui, t'as raison, c'est la forme d'un chien.
Bah, c'est exactement ça, c'est okay. L'hallucination auditive qu'on retrouve aussi beaucoup sur Internet. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, on va suivre avec de nouveaux petits exemples, notamment Scorpion. Un titre très beau qu'on emballait avec ce titre Still Loving You.
Still Loving You, en plus il faisait 6 minutes, quelque chose comme ça.
Absolument, on avait le temps de faire le slow de la mort. Eh ben, on va écouter, c'est moins romantique, le petit extrait que je vous ai sélectionné, et surtout ce qu'on trouve comme mot en français. On écoute un premier extrait. Mm-hmm.
Une histoire de trou, je pense. Hein.
Non. Ce soir, j'ai les pieds qui puent.
Ah,
vers la fin, vers la deuxième partie.
Ok.
Ce soir, j'ai les pieds qui puent.
Ok.
Bon, on va chercher loin.
T'es d'accord, David? Faut vraiment qu'on nous le dise.
Oui.
Pour qu'on se rende compte que, hein.
Bah, c'est un petit peu comme les tests de grossesse. Faut vraiment qu'on me dise que c'est un test Covid.
Il est encore dessus.
Qu'on se rende compte. Bon, on va aller chercher beaucoup plus loin. Donc là, dans les inédits maintenant, j'ai été chercher vraiment très loin. Notamment avec le titre de Omi Cheerleader qui a été remixé par le DJ allemand Félixien en 2015. On écoute le petit extrait. Voilà, on va chercher loin parce qu'on a quand même un peu cherché dans les mots. On dit on va quitter la France, on va chez Lidl. Mais c'est vraiment un peu quitter la France, on va chez Lidl.
Alors l'accent va. Ouais, c'est un peu moins.
C'est un peu moins.
Capillotracté, là,
c'est
vraiment.
Capillotracté, mais il y en a des pires dans les capillotractés.
On sent qu'il y en a qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée.
Exactement. Des trucs de... Tu dis qu'il a aucune vie sociale.
Non, je pense que Jonathan,
moi, je me suis fait aider avec Internet, mais il fallait que je vous le mette, Omi, parce que je me suis aussi dit que c'était capillotracté, que c'était chercher vraiment très loin. Là, c'est un peu plus simple avec Rihanna et son titre Russian Roulette. Alors là, ça vous dit quelque chose comme
moi,
ça?
Je suis un super mauvais client pour les hallucinations auditives. Je vois rien là aujourd'hui, je sais pas.
Elle dit, comme il sait se tenir.
Ah oui, maintenant que tu le dis,
je sais pas qu'on dit, c'est pas mal.
Mais avec Rihanna, il y a dans la chanson Beach truc Money, je sais pas quoi, elle fait de la pub pour du Riolet. Aussi, t'écoutes,
Je t'en riolet,
Elle fait, Riolet. Depuis, j'entends
avec
ça
l'accent. Riolet.
Exactement.
Bon, Nirvana.
Ah, Nirvana. C'est quelque chose, quand même.
Avec The Man Who Sold the World. Là aussi, il y a quelque chose d'assez sympa. On écoute le premier extrait. J'espère que vous êtes d'ici la fin. Vous avez quand même remarqué quelque chose,
on
là.
On se bouge un peu, David.
Allez.
Parce qu'il est, il est tout triste, là.
Ouais, je commence à être triste. J'ai l'impression que je suis le seul à avoir le cerveau malade. Allez, on écoute. Vers le début.
Ouais.
Non?
En tout cas, il a un rhume.
Ouais, je pense.
Mais là, tout le monde a le rhume, c'est temps.
Là, que j'ai entendu, c'était un peu moins visible. Elle lave tes shorts tout seul.
D'accord.
Alors, on écoute. Attention. Elle lave tes shorts tout seul.
Quand même. Mais c'est vrai qu'il faut être bien attentif.
Il faut être bien attentif.
C'est 8h du matin, Jonathan.
C'est qui trouve des trucs comme ça?
Ah, mais il y a des gens, ils ont vraiment des cerveaux. On me dit sur le WhatsApp, il faut pas chanter, c'est terrible. Donc j'ai chanté tout à l'heure. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Donc non, je ne dois pas chanter les soirs. Et puis, un petit dernier pour la route, pour vous montrer que ça fonctionne aussi dans d'autres langues, pas uniquement avec l'anglais, mais aussi avec l'espagnol. Mm-hmm. Et Shakira avec Tero Madrid. C'est la fin là.
Ok, je connaissais pas du tout cette chanson.
Il y a pas le poil.
Ouais.
Ah.
Il voilà. Y a bien enfin quelqu'un qui suit.
Et avant, non?
Non. Bon. J'ai retenu poil.
On va réécouter. Ça, c'est en fait, c'est j'aime mieux qu'elle soit à poil. Voilà, il faut chercher un petit truc. C'est pas toujours facile. C'est mieux qu'elle soit à poil.
D'accord.
Ouais, alors le début, je ne l'ai pas, mais soit
mais
à
le poil.
Ouais.
Ouais, bah voilà. Donc, pour cette petite hallucination auditive, c'est vrai qu'on va chercher vraiment très très loin pour certaines. Une petite sélection qu'on peut aussi trouver sur Internet.
Ouais, je crois qu'il y a pas mal de pages qui recensent justement. Alors, il y en a qui sont plus audibles que d'autres, quand même, de ces hallucinations auditives.
Oui, absolument.
Et dans les derniers messages en date qui viennent de nous arriver sur WhatsApp, Céline nous dit, chez Nirvana, moi j'ai déjà entendu, enlève tes chaussures. Chacun entend ce qu'il veut, décidément.
Bah, c'est les hallucinations auditives, c'est le principe.
Et c'est celle de Jonathan. Un grand merci. On remercie Bastien Bergès également.
Merci
et puis,
à vous.
On se retrouve, on verra les vidéos très vite, sur frappe.ch, notamment à partir de ce week-end. Et on se retrouve très vite dans cette émission qui s'appelle
Jamais 203.
Le nouveau Benjamin Biolay pour rejoindre l'actu de 9h sur.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Très bien, et regardez qui est là.
Ah bah voilà.
Coucou. Voilà JD.
Bonsoir JD, 19h23.
Bonsoir.
On progresse en ponctualité.
Non, JD, vous allez vraiment recevoir une
correction.
Comme on dit en suisse allemand.
C'était
feut le.
Feu le brach.
Feut le brach.
Feut le brach. Feu, c'est ça.
Feut li brach.
Feut li. Ah, il y a un U, il y a un I maintenant. C'est pas la même région, hein. Feulibrach.
Alors, je comprends pas vraiment ce que c'est, mais
c'est une fessée.
Rien comprendre le nom, ouais, ben voilà.
Parce que JD, vous êtes en retard. Et heureusement qu'on a des auditrices et des auditeurs bien avertis qui ont plein de bonnes idées pour vous faire un petit peu des corrections.
Une correction. Alors, dans les messages de propositions correctionnelles, nous avons giflez-le avec une couenne de lard. Est-ce qu'on a ça là, sur la table d'apéro?
On va devoir trouver une couenne de lard.
Il n'y a pas de lard sur la table, il n'y a rien. Alors, on va trouver ça pour la prochaine fois. Sans cou avec un fouet clouté. Est-ce que quelqu'un a une ceinture cloutée parmi tous les gens qui étaient à l'apéro?
Ça, on doit aussi pouvoir trouver. Bon, le gars, il va perdre son pantalon. Hein.
Ouais, ouais, on va trouver ça.
Ligotez-le à un radiateur et parlez-lui en suisse-allemand.
ça doit être quelqu'un qui me connaît, non?
C'est Doudou, fille, hein.
Vous allez l'attacher sur une chaise et lui chatouiller les pieds avec une plume. Une fois que ce sera fait, je peux vous dire que c'est une sacrée punition.
Tu es chatouilleux, JD?
Ça va, ça dépend.
Alors, on va tester tout ça. Ça dépend. Alors, on va commencer déjà par enlever ses chaussures, JD, s'il te plaît.
Moi?
Allez,
ouais. Ah, mais c'est, je croyais que c'était moi qui devais recevoir le gage.
Bah, bien sûr, bah, tu vas enlever tes chaussures tout de suite, du coup.
Là, pour le coup, c'est Tania qui va avoir un gage.
Non, mais ça, c'est pas grave. Non, non, on a une ventilation, ça aère bien, il n'y a pas de problème.
Pas de soucis, quoi.
Alors, JD.
Voilà.
Les chaussettes.
Non, c'est pour moi la punition.
Les chaussettes maintenant.
Les chaussettes, JD.
Bon, loin. D'accord.
Voilà. Il n'y a pas une plume qui traîne par
là? Oh, avec mes cheveux, pour la faire.
Si vous voyez la scène.
Attendez, je me baisse un peu. Hein, ouais,
JD,
il
faudrait peut-être lever le pied quand même. Hein.
Attention.
Voilà.
Je le chatouille. Oui, il est chatouilleux.
Oui, un petit peu.
Il est un petit peu chatouilleux quand même. Non, on en a des propositions sadiques. Hein. Radio FR,
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé Teva avec le Comedy Show où Marc-Antoine Lebray nous sort sa meilleure imitation de Cyril Hanouna.
Moi, mes enfants, les chéris, ce sont mes chroniqueurs. Voilà, je vous le dis. Et vu comment ils sont nombreux, c'est dommage que je ne touche pas les allocs. Oh, ça va, bébé. Oh, ça va. Il a pas compris la vanne, lui, mes chéris. Non, mes chroniqueurs, les chéris, je vous le dis. Ce sont pas comme mes enfants. Moi, mes enfants, ils savent tous lire et écrire.
Radio FR. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
12.
C'est une autre histoire.
Ah bah c'est la journée des grands hommes aujourd'hui sur Radio Fribourg. On écoute Stromae à l'instant. Et quelqu'un que vous entendez qui est arrivé tellement en avance ce matin, il est très en verve et ça nous fait plaisir. C'est notre historien maison. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Maj.
Je crois que c'est le fait de faire du vélo qui vous fait du bien. Hein.
Bah, j'adore faire du vélo.
On se souvient que l'année passée, vous avez proposé une très belle balade historique en Gruyère et ça se faisait à vélo. Ça m'avait surpris d'ailleurs de votre part. Je savais pas que vous étiez aussi sportif. Et puis aujourd'hui...
Électrique, hein, électrique, je le dis pour nos...
C'est quand même pas un vélo moteur, il faut quand même pédaler, on est
voilà,
d'accord.
Non, un peu, oui.
Un minimum d'effort. Hein. Et vous aviez envie ce matin de nous parler de cette exposition sur les 75 ans du Tour de Romandie. Elle est visible au Vélo Club Fribourg depuis jeudi dernier. Et l'exposition se poursuit jusqu'au 9 juillet. Qu'est-ce qu'on peut voir à la caserne de la Poya alors?
Alors justement, c'est amusant parce que quand on parle des musées fribourgeois, on pense au musée d'art et d'histoire, au musée d'histoire naturelle, mais personne pense au musée du vélo.
C'est vrai, ouais.
Alors, il y a en effet un musée du vélo, parce que le Vélo Club a été fondé en 1905. Donc, c'est Monsieur Auguste Girard qui a été aussi un coureur cycliste, et puis Jean-Pierre Biollet qui gère ce musée dans la caserne de la Poya. Donc, on doit rentrer hein, quand on passe devant des militaires et tout. Faut dire qu'on va à la caserne de la Poya. Faut dire aussi qu'il faut prendre rendez-vous pour y aller. Hein. Et depuis jeudi dernier, on a eu un vernissage, en présence d'ailleurs du président de l'Union Cyclisme Mondiale, hein, ceux qui sont à Aigle. Hein. Oui, avec des... Il y avait Pascal...
L'UCI, autrement dit.
Voilà, le Pascal Richard, qui était présent aussi. D'autres grands noms du cyclisme roman, parce qu'il y a peu de romans qui ont gagné le Tour de Romandie. Hein, c'est assez...
C'est vrai.
Donc, c'est le 75e anniversaire, rappelons-le, il a été créé en 1947. Et nous avions été contactés à la ville de Fribourg pour fournir quelques données historiques là-dessus. C'est comme ça que j'ai découvert ce musée. Et donc, ils ont fait cette exposition qui est ouverte jusqu'au 9 juillet. voilà. cette année. Alors, comme je l'ai précisé...
Donc, il y a des vélos, il y a des documents d'archives, il y a des photos, voilà. il y a des films, je ne sais pas.
Voilà, exactement. On voit même les premières lignes d'arrivée, comment calculer, vous savez. C'était Longines qui s'occupait à cette époque-là pour voir comment on faisait...
Le chronométrage, c'est très précis.
Quand on était
sur
le fil, puis il y a beaucoup de photos aussi.
Génial.
Non, c'est une très, très jolie exposition. Et le musée, en même temps, il est très intéressant à découvrir. On voit des vélos historiques, les premiers vélos qui ont existé. Donc, que tous les amoureux de la petite reine devraient s'y précipiter. Mais je précise quand même qu'il faut prendre rendez-vous, parce que comme c'est un musée tenu par des bénévoles, alors donc, soit auprès de Jean-Pierre Biollet, je peux donner le numéro de téléphone ?
Oui, allez-y. Les gens notent mieux les sites internet, généralement.
Il y a sans doute un site internet, mais qui est peut-être...
Il n'est pas toujours très bien mis à jour, mais vous avez quand même les coordonnées pour contacter les responsables. Alors, c'est le site du Vélo Club Fribourg, tout simplement.
Parfait. Ouais. Ou Auguste Gérard, au 079 637 92. Et je recommande cette exposition. Comme je recommande aussi, ma compagne Gilliane recommence les visites guidées de la ville de Bulle.
Elle le fait tellement bien, Gilliane, quand elle nous montre les petits recoins de Bulle, parce qu'on dit toujours Bulle, il n'y a rien d'intéressant à voir, parce que tout a brûlé au début du 19e siècle. C'est faux, il y a un magnifique château, puis il y a d'autres choses très intéressantes. Il y a de l'architecture plus contemporaine à voir aussi.
Il y a une belle chapelle, la configuration de la ville est assez étonnante. Puis c'est vrai qu'il y a quelques petits recoins secrets.
On rappelle que Gilliane est quand même collaboratrice scientifique au musée Gruyérien.
Exactement.
Voilà.
Et donc, mercredi, de 18h à 19h30, c'est la première visite guidée de l'année. Et Mathilde dit, il y a encore des places. Mais attention, là aussi, il ne faut pas y aller spontanément. Il faut s'inscrire auprès de Gruyère Tourisme en ligne jusqu'à mercredi midi, demain à midi.
C'est tellement plaisir de voir ces visites guidées qui recommencent. Une bonne idée de sortie en famille. Alain-Jacques Tornard, plaisir d'être en votre compagnie jusqu'à 9h sur Radio Fribourg. On évoquera dans quelques instants la neutralité suisse en danger. On parlera de Margaret Thatcher qui devenait Premier ministre. Et puis, tout de suite là, le 3 mai 1968, la cour de la Sorbonne qui était occupée par les manifestants. C'était le début de mai 68, évidemment. On en parle tout de suite sur Radio Fribourg. C'est une autre 3 mai.
C'est une autre histoire.
Le 3 mai 1968, la cour de la Sorbonne, le célèbre bâtiment universitaire de Paris, était occupée par 150 à 400 manifestants selon les sources. Ces étudiants seront vite dispersés, mais quelques heures plus tard, les manifestants reviendront plus nombreux, plus virulents pour une contestation qui durera finalement 2 mois. L'historien de Radio Fribourg a choisi ce matin de revenir sur le mouvement social le plus important qu'a connu la France au XXe siècle. Et l'onde de choc de mai 68 ne s'est de loin pas cantonnée aux frontières de l'Hexagone, Alain Jacques Tornard. On parle toujours d'un avant et un après mai 68.
Oui, tout à fait. Ça fait penser un peu à 1848, d'ailleurs, à travers cette onde de choc à travers le monde. Alors, dire qu'on ne l'a pas vu venir, ça serait peut-être un grand mot, parce que depuis le début de l'année 1968, il y a quand même pas mal de contestations. On est au moment le plus important de la guerre du Vietnam, donc ça polarise l'attention des jeunes aux États-Unis, à Rome et à Paris. Et bientôt même à Fribourg, parce qu'on oublie qu'il y a eu, rendez compte, même à Fribourg, il y a eu quelques retombées.
Quand je disais que c'était mondial.
Quand on disait que
même la sage ville de Fribourg.
Oui, alors le 22 mars 68, il y a eu une arrestation de quelques étudiants qui avaient un peu trop manifesté. On constitue un mouvement de soutien, mouvement du 22 mars, avec 142 étudiants. Vous voyez que ça part d'un petit microcosme, quand même. Mmh. Et puis, attention, un microcosme en 68 de privilégiés. On est sur des jeunes bourgeois qui peuvent se permettre, eux, de contester parce qu'ils ont toujours papa, maman, surtout papa à l'époque.
Qui vient les chercher au poste au cas où.
Voilà, exactement, et qui pourront toujours les soutenir, comme dit les inconnus, là, si ça marche pas, je reprendrai la boîte de papa. faut bien se dire que c'est une grande époque de prospérité. Il y a
eu... des Trente Glorieuses.
Exactement, il y a la pilule, il y a la révolution sexuelle, on est dans une belle époque, et donc c'est une époque propice à la contestation. Une manifestation soutient justement à ces jeunes qui avaient été un peu chahutés par la police, et programmée le 3 mai à la Sorbonne. Mais le recteur, qui craint une provocation de l'extrême droite, c'est amusant, c'est à cause de l'extrême droite que se déclenche finalement B68, il demande à la police d'évacuer les lieux. Or, c'est une chose, une tradition dans le monde universitaire. La police n'intervient jamais au sein des amphithéâtres.
C'est comme dans les églises, on n'a pas le droit d'intervenir normalement à l'intérieur.
C'est non dit, hein, bien entendu, c'est pas une règle écrite. Et bon, bien sûr que l'affaire va dégénérer, alors que le pays, à l'époque, baigne dans le calme le plus complet. Le 2 mai, il y a le premier ministre de l'époque, le futur président de la République, Georges Pompidou, qui est parti pour un voyage officiel de 10 jours en Iran et en Afghanistan. Et le général de Gaulle, lui, s'apprête à partir en Roumanie quelques semaines plus tard. Donc, on s'imagine pas. Mais voilà, des manifestations suite à cette intervention de la police éclatent dans le quartier latin, au cri de « Libérez nos camarades !» Ça te veut dire, voilà, des barricades font leur apparition.
Je ne sais pas pourquoi je vous vois bien sur une barricade.
Ouais, c'est pas sûr.
Vous nous raconterez tout à l'heure quelle était votre opinion quand vous étiez tout jeune.
C'est le début des événements de mai 68 qui combinent alors l'agitation étudiante, mais surtout après vient se greffer là-dessus, parce que les ouvriers en profitent, un mouvement social de très grande ampleur. Mmh. Et l'opposition politique au régime gaulliste qui célèbre justement le 13 mai son 10e anniversaire. Donc c'est tout. Mais on en a marre un petit peu en France à cette époque-là. Le gaullisme, c'est quand même une certaine pesanteur.
Ouais. Rendez-vous compte, un pays dirigé par un militaire depuis toutes ces années. Hein.
Oui, et puis pas tout jeune, alors que c'est un pays qui est jeune. Les 30 Glorieuses, ça veut dire aussi le baby-boom. Ouais, et c'est ces gens qui arrivent là, qui sont nés au début des années 40, 43, qui arrivent là comme étudiants. Et voilà. Et ça commence à se passer très mal. La télévision est en grève. D'ailleurs, on se moque de la télévision. Il y a un fameux slogan, la police vous parle tous les soirs à 20h. C'est l'heure du bulletin de la télévision, parce que la télévision est une télévision d'État aux mains du ministère de l'Information.
RTF à l'époque, on disait.
Voilà. Et donc, le 13 mai, c'est les syndicats qui s'en mêlent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on aura les accords de Grenelle. D'ailleurs, après, on continuera à dire un Grenelle. On a même eu le Grenelle de l'environnement, qui aboutira avec 8 millions de grévistes. La France complètement paralysée. Il n'y avait plus un programme à la télévision, par exemple. Et donc, le général de Gaulle fait comme si de rien n'était. Lui part en Roumanie. Et au grand dam des étudiants, les syndicats vont en fait négocier pour leur propre compte. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces petits bourgeois, tout ça, qui se révoltent, les syndicats, ce sont des ouvriers. Ils savent très bien qu'ils appartiennent pas au même monde. Et donc, eux négocient ce qu'ils ont à négocier. Et voilà, on crée le SMIC. D'ailleurs, le SMIC, à l'époque, ça deviendra le SMIC ensuite, avec un salaire minimum de 500 francs par mois, l'équivalent aujourd'hui de 8 ans de francs suisses. Hein. C'est quand même pas
très loin que ça.
Mais alors, en plus, il y a une sorte de vide de pouvoir, puisque le 30 mai, le général de Gaulle, il était à Baden-Baden, il était parti, il avait eu très très peur, il savait plus quoi faire, et le 30 mai, il revient, et il y aura une grande manifestation gaulliste.
Ça va durer 2 mois. Hein.
Une grande manifestation gaulliste, et suivie ensuite des élections anticipées, qui va donner ce qu'on appelle une chambre des députés bleu horizon, c'est-à-dire une chambre des députés de gaullistes très forte, parce que le peuple a eu très peur, et donc la France profonde va voter en masse. Mmh. Alors moi, je me souviens des beaux slogans, hein, sous les pavés la plage, raser les montagnes qu'on voit la mer, soyez réaliste, mandez l'impossible, Mike. Mais moi, à l'époque, j'étais tout enfant.
Mais vous aviez quel âge en mai 68?
J'avais une dizaine d'années, et j'étais farouchement contre.
Vous étiez un vieux réac à l'époque?
J'étais
un jeune réac
à l'époque, et j'avais déchiré, parce que j'avais un petit agenda, j'avais déchiré les pages correspondant au mois de mai.
Oh là là.
Et j'avais même intitulé ça la grande solitude de mai 68.
C'était pour la Révolution française, mais contre mai 68.
Oui, c'est étonnant.
C'est étonnant. Hein. Il nous étonnera toujours, Alain-Jacques Tornard. La neutralité suisse est-elle en danger? Ah, ça, c'est la question qui dérange. Une question sur laquelle on va peut-être voter bientôt. On en parle tout à l'heure dans la suite de cette émission. C'est une autre histoire sur Radio Fribourg. Tout de suite, ça va être l'actualité avec Radio Fribourg.
C'est une autre histoire.
Le peuple suisse doit-il voter sur le principe de neutralité? S'interrogeait hier le site de la RTS. Plusieurs conseillers nationaux, de gauche comme de droite, souhaitent en effet porter cette question devant le peuple. Il faut dire que la question de neutralité, ancrée dans notre constitution, est fortement remise en cause depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et toutes les sanctions que cela a provoquées dans le monde. Cette neutralité helvétique, qui a toujours été aussi élastique et malade qu'un chewing-gum, hein, estime l'historien Hans-Ulrich Jost dans la Sonntagszeitung, et l'histoire historien de Radio Fribourg. Je suis intéressé de savoir ce qu'il en pense, Alain-Jacques Tornard. Est-ce que la neutralité suisse est en danger?
Oui, et on ne devrait pas jouer avec le feu. Je rejoins le professeur Yost sur sa formule, vous savez, vous connaissez la mienne d'ailleurs, la neutralité c'est un état de non-belligérance favorable à la puissance dominante du moment.
Ah oui, c'est très joliment dit aussi.
Et donc, forcément, actuellement, nous sommes alignés au garde à vous face aux États-Unis. Ça semble particulièrement évident. C'est vrai que notre neutralité depuis 1815 est une success story. Je dis ça peut-être même avec un petit brin de cynisme. Cette politique étrangère que nous avons eue, basée sur la non-ingérence, parce qu'il fallait maintenir des équilibres à l'intérieur de la Suisse, entre des Alémaniques qui auraient pu être tentés par le nationalisme naissant en Allemagne, inversement la même chose du côté français. Il était vital de se retirer de ce monde pour pouvoir exister. Et ce monde avait besoin, le monde qui nous entoure surtout, avait besoin de nous comme principe d'équilibre entre les puissances. Personne n'avait intérêt, tout le monde avait intérêt à occuper la Suisse, personne ne devait le faire parce que ça pouvait devenir qu'une zone de danger alors que ça devait être une zone de rencontre. Et nous avons particulièrement su jouer ce rôle à travers l'histoire, avec plus ou moins, non pas de succès, mais de compréhension de la part des gens qui nous entourent. Chateaubriand le disait déjà au début du 19e siècle, la Suisse avait bâti sa banque, sa prospérité sur le malheur des autres. Forcément, par la force des choses, en se retirant de ce monde, nous avions un autre rôle à remplir et qui n'était pas forcément toujours compréhensible, puisque nous ne nous impliquions pas directement dans le monde qui nous entoure. Mais en même temps, ce monde avait vraiment besoin de nous. Et au Congrès de Vienne, la Russie, y compris, par exemple, avait accepté ce principe de neutralité dans l'intérêt de l'Europe. Mais curieusement, nous avons toujours été très ambigus par rapport à cette neutralité. Lorsque nous avons créé cette constitution 1847, qui est la base, la matrice des constitutions futures de la Suisse, nous n'avions pas inscrit la neutralité dans l'article constitutionnel définissant, par exemple, les buts de la Confédération. C'est assez curieux.
C'est arrivé quand, alors?
On ne l'a jamais fait. Tout simplement, même la constitution de 1999 reste aussi ambiguë. C'est pour ça que de nos jours, on peut s'appuyer sur un article qui dit que on doit assurer l'indépendance de la Suisse, mais on ne doit pas exclure d'abandonner le principe de la neutralité dans l'intérêt même de son indépendance si elle est en jeu, c'est-à-dire que si on est visiblement menacé. Mais surtout, nous avons eu une vocation avec les bons offices que nous avons déployés depuis 1870. On a eu l'occasion ici de parler, par exemple, des Bourbakis, mais ça a été le cas pendant les deux conflits mondiaux. Et d'ailleurs, les conventions de La Haye en 1907 précise qu'il est interdit aux neutres, par exemple, de mettre à la disposition des belligérants des troupes et des bases d'opérations, d'autoriser le passage de troupes, de livrer, je cite, du matériel de guerre appartenant à l'État, de garantir des crédits de guerre et de transmettre des renseignements militaires. Alors forcément, nous avons eu quand même, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième, tendance à contourner un peu tout cela, puisqu'il y a eu des bases de renseignement en Suisse très importantes. On est, comme le professeur le dit, Yost le dit si bien, une très grande souplesse. Nous avons adhéré à la SDN dans les années 1920.
Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU.
Exactement, mais on a dû bâtir pour ce faire le principe de la neutralité différentielle. Alors, c'est comme les vérités alternatives.
On commence déjà à mettre un peu de l'eau dans notre vin.
Voilà. Qui comme membre devait, parce que la Suisse en tant que membre de l'SDN devait participer à d'éventuelles sanctions mais sans intervenir militairement, c'est des sanctions économiques. Mais en 1938, suite au retrait de l'Italie qui avait envahi l'Éthiopie, la Suisse revient à une neutralité dite intégrale. Vous voyez, donc on joue un petit peu, et pendant la guerre, je rappelle quand même que nous avons maintenu notre ambassade à Berlin jusqu'au mois de février 1945. Elle était ouverte et que voilà, on a continué. Là aussi, c'est encore une fois, c'est une permanence. Nos principes de bons offices. En fait, c'est surtout dans les années 50, après-guerre, qu'on a presque fait de la neutralité un principe de la doctrine, une doctrine d'État. On était beaucoup plus souple auparavant. Par exemple, c'est tellement ancré dans notre ADN, pratiquement, qu'on a refusé d'entrer dans d'abord dans le Conseil de l'Europe jusqu'en 1963, hein, faut pas l'oublier. On a voté en 1986, on n'aime pas beaucoup le rappeler d'ailleurs, on avait voté contre l'adhésion de la Suisse à l'ONU, à 75%, faut quand même pas l'oublier. Et en fait, on sait très bien, et les Russes le savent aussi d'ailleurs, que nous sommes en fait très liés à l'Occident. C'est un autre, comme on dit, occidental. Les Russes le savent parce qu'ils avaient vu, ils avaient piqué les éléments que les Allemands avaient aussi eu en main sur les liens existants entre la France et la Suisse en cas d'invasion de la Suisse. Donc ils savaient très bien à quoi s'en tenir quant à la vérité de la neutralité suisse. Avec la désintégration du bloc de l'Est en 1989, mais il a fallu redimensionner la neutralité, mais on n'a jamais osé la remettre en cause vraiment de manière formelle. La constitution adoptée en 1999 par le peuple continue de mentionner la neutralité que dans les articles consacrés aux compétences des autorités fédérales, pas en tant que telles. Et d'ailleurs, on a approuvé en 2001 à 51% la possibilité pour des volontaires suisses de participer à des missions de paix de l'ONU.
Les fameux casques bleus. Hein.
Exactement, ce qui pouvait poser problème. Et d'ailleurs, notre neutralité, nous l'avons mis aussi en berne lorsqu'il s'est agi, par exemple, de reconnaître l'indépendance du Kosovo de manière assez anticipée, ouais, alors que ça pouvait toujours créer un problème.
On l'a bien compris, la neutralité suisse est en danger, mais y a-t-il danger pour la Suisse de ne plus être neutre,
oui,
Alain Jacques ?
Oui, parce que...
Avec le conflit qui nous cristallise en ce moment, justement...
Le conflit menace, un grand conflit mondial nous menace, il faut... je sais que je joue toujours les oiseaux de mauvais augure, mais malheureusement, on ne peut plus repousser comme absurde l'idée qu'il y aura d'ici quelques mois, voire quelques semaines, un conflit généralisé. Les Américains poussent les Russes dans leur dernier retranchement. C'est jamais à faire, ça, avec les Russes. Et là, la Suisse a peut-être à nouveau cette vocation de jouer la position de retrait et ensuite les possibles lieux de médiation, parce que elle n'apportera pas grand-chose. D'ailleurs, peut-être, tiens, on pourrait en parler la semaine prochaine, ce lien qui existe déjà d'ailleurs potentiellement avec l'OTAN.
L'OTAN, ouais. Bah oui, pourquoi pas en parler la semaine prochaine, effectivement, ça pourrait être votre prochaine analyse, Alain-Jacques Tornard. Je vais vous confier un exercice auquel vous n'avez jamais été confronté sur Radio Fribourg. Est-ce que vous êtes d'accord de relever un petit défi? C'est par rapport à la suite de cette émission. Vous avez déjà entendu comment faire en radio quand on annonce un titre, on cale une intro, l'animateur parle pendant que c'est instrumental, il s'arrête de parler pile poil au moment où ça commence à chanter. Vous allez chausser le casque qui se trouve juste à votre droite et vous allez annoncer la chanson qui va arriver maintenant sur Radio Fribourg, puisque cette chanson, c'est vous qui l'avez choisie. Vous disposez de 16 secondes très exactement. Attention, Radio Fribourg.
C'est une autre histoire.
Royaume-Uni, 3 mai 1979, Margaret Thatcher remportait la majorité à la Chambre des communes, l'équivalent un peu de notre Conseil national à nous. Le lendemain, elle accède au poste de Premier ministre, devenant ainsi la première femme à diriger un pays européen. Amusant de constater que nous avons traité en début d'émission de mai 68 avec son anarchie et retour à l'ordre pour terminer aujourd'hui avec Margaret Thatcher, c'est pas innocemment que vous avez fait ça, Alain-Jacques Tornard.
On reste le 3 mai,
le
3 mai 1979.
Mais oui, la dame de fer Margaret Thatcher qui a elle aussi marqué le 20e siècle d'une empreinte indélébile comme mai 68, et rarement, faut le dire, femme politique aura été autant admirée par les uns, honnie par les autres. Renault par exemple, pas très copain avec Margaret Thatcher dans cette chanson. Vous avez tellement bien choisi.
Le Renault pur produit de mai 68, quelque part.
Voilà, aussi exactement.
C'est vrai que là, on est à l'antithèse. On est dans cette réaction conservatrice que va d'ailleurs, à la même époque, incarner un Ronald Reagan, par exemple, aux États-Unis. C'est d'ailleurs son pendant. Elle était peu connue un peu de temps avant. C'est en 1975 qu'elle est convaincue qu'il faut revenir aux sources du conservatisme. Les Tories veulent retrouver leur essence propre. Alors, il y avait un très bon... Il était très sympathique, il faisait du bateau. C'était Edward Heath, qui était à la tête du Parti conservateur. Ben non, elle l'éjecte assez brutalement, parce qu'elle n'est pas... c'est pas un pied tendre, hein, notre Margaret Thatcher. Et 4 ans plus tard, elle bénéficie du mécontentement des Britanniques. Il y a eu des grèves à répétition. L'Angleterre est en train de baisser économiquement. Hein. C'est une, on est en phase descendante. Et elle met le gouvernement travailliste de James Callaghan en minorité. Ce qui entraîne des élections. Et elle arrive au pouvoir. Et là, pendant 10 ans, elle va entamer ce qu'on appelle une révolution conservatrice comme on n'en a jamais connu. Et François Mitterrand, qui arrive au pouvoir peu après, elle...
Et qui lui est socialiste.
Et qui lui est socialiste, socialiste. Mais disons qu'en 1980, il est vraiment socialiste. Alors, il a dit d'elle, elle avait la bouche de Marilyn et le regard de Caligula.
Ouf.
J'étais pas sûr que ce soit aussi un compliment. C'est peut-être aussi violent que notre Renault français. Alors... Donc elle va être au pouvoir de 1979 à 1990, et bon, ça en fait vraiment l'un des personnages les plus importants et les plus controversés de cette fin du XXe siècle. Alors, qui était-elle vraiment ? C'est la fille d'un épicier, lui aussi méthodiste. Alors, bien sûr, vous voyez, là, on est dans le protestantisme un peu rigoureux, hein, mais elle échappe à son milieu familial, elle fait des études juridiques, elle se marie, elle aura des jumeaux, et elle est élue à la Chambre des communes et progresse très rapidement dans la hiérarchie du Parti conservateur. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand elle arrive au pouvoir, elle n'est pas si conservatrice que cela au niveau des mœurs. Par exemple, c'est elle qui va décriminaliser l'homosexualité, ce qui est quand même une révolution. Vous savez qu'en Angleterre, on pouvait être condamné pour homosexualité. D'ailleurs, ça a été le cas pour pas mal de grands intellectuels et économistes aussi. Légalisation de l'avortement aussi, hein, contre la majorité de son parti. Et ce qui fait que c'est quand même la première femme aussi à occuper le poste de Premier ministre.
Alors parmi les grands défis qui se sont présentés durant le mandat de Margaret Thatcher, il y a eu la grève des mineurs, il y a eu la guerre des Malouines aussi. Hein.
Exactement. Alors la grève des mineurs, elle va leur casser les reins aux mineurs. Hein. Le rôle des syndicats et de l'État va être revu complètement. Elle assène un cinglant « There is no alternative » résumé par la grave Tina, il n'y a pas d'autre choix.
Et donc, de fermer les puits non rentables.
Exactement. Mmh. Donc là, d'ailleurs, l'économie va tomber tête baissée, l'économie traditionnelle, comme en France, un peu plus tard, hein, au profit justement de la finance, du monde de la finance. La prospérité de Londres, de la City, bien entendu, c'est la finance, le monde bancaire, c'est surtout là-dessus. Et en 1982, en effet, elle va, après avoir d'ailleurs dû subir l'agitation en Irlande du Nord, qui persiste, hein, avec des crimes encore assez importants, et c'est l'attaque argentine contre les îles Malouines. Et ces îles, eh bien, elle va vouloir les reconquérir, elle va mettre ça magnifiquement en scène, elle va vaincre les Argentins à plate couture, et elle va l'utiliser, cette popularité, lors des grèves de 84-85, et voilà comment elle va devenir cette présidente à la poigne de fer, qui en Europe va aussi jouer un rôle qui prépare quelque part aussi le Brexit, il faut pas l'oublier, parce qu'elle aura une politique absolument impitoyable. Elle est beaucoup, d'ailleurs, elle est pas très appréciée en Europe, puisqu'elle voulait récupérer l'argent versé au budget de la Commission européenne. I want my money back.
Ouais. elle voulait en fait que l'Europe lui rapporte autant que elle donnait à l'Europe. Hein.
Exactement, ce qui forcément dans le pot commun n'était pas forcément bien vu.
Ça fait la colère de Jacques Delors, on s'en souvient.
Mais c'est d'ailleurs sur une question d'argent qu'elle va tomber. Elle voudra instaurer un impôt qui est extrêmement impopulaire, la poll tax, en novembre 1990, et les contraintes à la démission. Local, hein. Et en la place, on mettra John Major. Et là, ça commence un peu l'instabilité en Grande-Bretagne, puisque lui-même va être...
Il était le dauphin de Margaret Thatcher, mais il n'avait pas sa poigne. Hein.
Il n'avait Oui, disons qu'elle en avait, mais lui pas.
Voilà, voilà. On va dire plutôt comme ça.
Et il sera battu d'ailleurs en 1997 par le New Labour de Tony Blair, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est plus proche qu'on l'imagine. Je recommande d'ailleurs le film.
Ah, ça me fait plaisir, j'allais vous en parler là.
Bah oui, la Dame de Fer.
Qui c'est qui jouait
Meryl Streep, voilà, qui obtient son troisième Oscar en la circonstance.
Je pensais pas que vous avez aussi bien préparé cette émission. Hein.
et qui montre très bien Margaret Thatcher atteinte de la maladie d'Alzheimer. Essaye de se remémorer les souvenirs. Film admirable, si on veut connaître un peu Margaret Thatcher, il faut voir ce film.
Et si on veut connaître son histoire, il faut se brancher Radio Fribourg. Tous les mardis, entre 8h et 9h, c'est une autre histoire avec Alain Jacques Tornard. On sait déjà, un de nos trois sujets de conversation pour la semaine prochaine, on évoquait aujourd'hui la neutralité de la Suisse en danger. Histoire amour-haine entre la Suisse et l'OTAN, on peut le résumer comme ça. Vous êtes d'accord, Alain Jacques, pour la semaine prochaine?
Disons que c'est un amour caché.
Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, d'après une étude internationale sur le bonheur, la Suisse est le pays le plus heureux du monde. Les pays en tête du classement combinent richesse et fort soutien social, ainsi qu'un gouvernement relativement honnête et responsable. La Suisse est donc sur la première marche du podium, suivie de très près par l'Islande, le Danemark, la Norvège et le Canada. Selon cette étude internationale sur le bonheur qui a été publiée hier à New York, la France se classe, elle, à la 29e place et le classement compte 158 pays. Ce rapport 2015 sur le bonheur dans le monde est le troisième cherchant à quantifier le bonheur pour essayer d'influencer les politiques des gouvernements. Les Nations Unies avaient publié le premier en 2012. Et pour arriver à leur conclusion, les chercheurs ont étudié l'espérance de vie en bonne santé, le PIB par habitant, le soutien social, avoir quelqu'un sur qui compter, la confiance, qui elle est mesurée par la perception d'une absence de corruption politique ou dans les affaires, la perception de liberté dans ses choix de vie et la générosité. Et les 13 pays en tête du classement sont les mêmes qu'en 2014, mais dans des ordres différents. Plus bas, tout en bas même du classement, on retrouve l'Afghanistan en 153e place. On rappelle qu'il y en a 158 en tout. La Syrie, déchirée par la guerre, à la 156e place. Elles font partie bien sûr des 10 pays les moins heureux. En toute fin de classement, le Togo est le tout dernier pays, 158e place. Le Burundi, 157. Le Bénin, 155. Le Rwanda, 154. Le Burkina Faso, 152. La Côte d'Ivoire, 151. La Guinée, 150. Et le Tchad, 149. Et en dépit du conflit en Irak, ce pays est 112e, devant l'Afrique du Sud, l'Inde, le Kenya et la Bulgarie.
C'est étonnant d'ailleurs.
Absolument. Bon, on retiendra que la Suisse...
Bon, il y a aussi pas mal de conflits en Afrique du Sud. Hein,
complètement. Alors bon, les pays africains, effectivement, sont tout en bas de ce classement, ce qui est un peu triste. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on est dans le bon pays. C'est le pays le plus heureux du monde pour cette année. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le nous sur Facebook.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Ils viennent d'un pays merveilleux, la Baltie. Voici les aventures de Janine et Bernard.
Hé hey Bernard, salut.
Hé, hey, tranquille, t'as vu? Carnaval de Rio, c'est le truc des boules, ça va y aller?
Ben ouais, j'ai vu dans La Liberté qu'il y avait une grande fête là avec le carnaval des Boltis, hein?
Ouais, c'est tranquille, bon, c'est un peu long le voyage, mais c'est pas grave, jusqu'en Boltis du Sud. Il y a un sacré bout, hein?
Ouais, faut prendre l'avion même, hein?
Allez, c'est parti! Ben nous voilà, hein, tranquille! Mais dis donc, il fait une charme dans cette basse ville! Là là!
C'est incroyable, pays tout!
Hey, non, mais tout le temps que c'est chaleux! Eh, viens voir, maman! Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu aussi d'aller googler le rababou!
Ben oui!
Hein? Allez, demande là, il y a des clients! Hey!
Tout va bien?
Ah oui, cara!
C'est qui? Ouais, bonjour!
Oui, bon dia!
On a eu le rababou!
Il est où le rababou?
Rababou? Qu'est-ce que c'est ce rababou?
Rababou?
Non, quel rababou?
Il n'y a que des Portugais en basse ville, c'est embêtant. Hein. Alors, rababou, bonhomme, fleuve! Rababou!
Le feu!
Ah, policia. La favela, hein.
Isso. Bonjour, la favela. Dis donc, vous connaissez pas par hasard Hubert Audria? On le cherche.
Oh, Robert. Il joue au football, oh. Il joue au football.
Il connaît le rababou, monsieur Audria. Vous n'avez pas eu vu par hasard?
Audria. Voiture nouvelle. Ok.
Ils n'ont rien compris, cette équipe. Bon, nous, viens, Google et Google.
Ben oui, bien. Parce qu'il y a un carnaval des bols dans les Google.
C'est pas des carnaval des bols. Ben ouais. Bon, maman, c'est où? On nous avait promis sur le programme les trois canards. Non, où, cette équipe?
Vous connaissez, monsieur, dame, les madame, trois canards.
Madame qui dansait pas très habillée sur le char. Venez voir.
Il y a trois plages.
Ah, danse de Galinha. La danse de Galinha. La fille, la danse de canard. Canard, hein?
Canard,
canard.
Télévision, télévision TV5 Latino, hein?
Il
parle de Darius. Non, de bleu. Viens, moi je veux. Opus, Life is Life. On aime bien danser avec ça, vous savez?
Le help.
Help.
La boîte, la boîte, le help.
Ah bah, qu'on agarote.
Tu veux ir au help?
J'amène, moi je comprends rien. On va aller boire une cardoche.
Je t'en ai mis.
Mais viens, maman. Moi j'en peux plus de cette équipe. Maintenant, ça c'est fini. C'est Bolterie d'en bas. Fini. Moi, aller boire une cardoche maintenant. Viens seulement.
Vous avez Cardoche?
Cardoche. Que Cardoche?
Carlinho Brown,
si. Na Bahia, ici Rio. Rio, ici Rio, papa, Bahia, hein?
Carlinho na Bahia.
Non, mais nous, on voulait aller au boulodrome des Nègles pour.
Au Sambodrome!
Sambodrome! T'étiquette les billettes, vous avez la billette?
Patinoire des Augustins, là, non?
Ah, à gauche fino, au professeur de littérature.
Oh, allez, Stalden, moi je comprends plus rien. Dites madame, vous pouvez venir un petit peu avec nous, vous qui vous avez pas. Mais maman, toi, tu pourrais aussi aller sur le char comme la dame, tant qu'elle aime bien aussi avoir des petits habits très légers comme ça pour l'été.
Moi, me mettre comme ça avec une ficelle entre les fesses, c'est exclu, monsieur. Samba.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Les amis.
Jamais 203.
Toute l'équipe au grand complet est contente de passer cette heure avec vous. Il y aura Jonathan tout à l'heure pour une enquête musicale. Il sera question de nos people également. Et la parole est tout de suite au plus romantique d'entre nous dans ce studio. Pourquoi tu ris, toi? Pourquoi il y a Jonathan qui rit?
C'est pas, ça colle pas, mais.
Non, mais arrête,
on va découvrir ce qui.
Non, mais t'es en train de casser tous les effets déjà de mon lancement, et puis. Imagine ce pauvre garçon, David Vidal, qui a sué sang et eau pour préparer une jolie chronique.
Je crois qu'il est assez réaliste, David.
Je trouve que le lancement de Mike était parfait.
Ouais, d'accord. C'est sorti. Ne te laisse pas démonter, David. N'écoute pas ces vilains ragots, vas-y. Parle avec ton cœur, comme tu sais si bien le faire.
Alors, je vais pas être romantique ce matin, je vais pas non plus être Bastien Bergès, mais. Je l'ai pas dit, mais je suis célibataire depuis quelques mois maintenant. Donc depuis le début de l'année, ouais, je suis célibataire. En fait, lors de ma chronique où je faisais croire que j'allais être papa, bah, mon ex et moi, on était en train de se séparer. Donc je fais vraiment les choses bien. Je suis quelqu'un d'assez.
C'est raccord là.
Ouais, vraiment,
c'est...
Ouais. Le timing, ça a toujours été mon fort. Et je crois que tout le monde le savait, donc mon ex elle est psychothérapeute, donc pour moi c'était une séparation en bon terme, pour elle c'était simplement la fin de sa formation continue, donc voilà. Mais c'est si bizarre d'être célibataire après 4 ans de relation, tellement bizarre que je suis allé taper la définition de célibataire sur Google, je voulais savoir ce que j'étais, ouais. Et la définition exacte c'est état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas et ne l'a jamais été. Ah. Donc, si t'es pas marié et que tu as jamais été, ben en fait, t'es célibataire. Donc, tout ce temps où moi je me suis considéré en couple, dans cette bulle de sécurité qu'est la vie à deux, eh ben non, en fait, j'étais un pauvre célibataire déjà. C'est comme si, je sais pas, ça fait 4 ans que je pensais avoir un emploi stable à la radio, et tout à coup, j'apprends que c'est Damien Piller qui paye mon salaire. Ouais, moment de fait désillusion. Du coup, en bon célibataire, je me suis mis sur Tinder. Donc, si Mythique, c'est le Lidl des sites de rencontres, bah, Tinder, c'est le Too Good To Go. C'est. Il n'y a que de la marchandise
marchandise sur le point d'être jetée ou qui a déjà été jetée d'ailleurs. Mais au prix que ça coûte et vu la dalle que t'as, bah franchement ça passe. C'est pas. Et je parle pas que des femmes, hein, vraiment, qu'on soit bien d'accord, parce que quand je vois les gars qui sont sur Tinder, je les souhaite même pas à mes ex. Ils sont à la séduction, ce que Claudio Rigaud est à la musique. Donc vraiment, ça, c'est assez horrible. Bref, je me suis mis dessus, j'étais super confiant. J'ai pas fait de biographie, je me suis dit que le charisme et le charme allaient se charger de tout. Vraiment tellement confiant que j'ai mis un rayon de 10 km, la fourchette d'âge entre 25 et 28 ans. Donc, autant vous dire qu'après deux semaines, trois matchs, dont deux avec des fakes et un avec une ex, je me suis rendu à l'évidence. Bah oui, le rayon était pas assez grand. Non, en vrai, oui, j'ai agrandi le rayon à 6000 km. Rien à foutre d'avoir des matchs à Chafouz ou à Penzel, hein, je prends ce qui vient. J'ai aussi mis la fourchette d'âge de 18 à 65 ans.
Ah oui?
Ouais.
Ah, c'est bien élargi tout ça, hein,
ouais, donc. Ouais, c'est bien élargi, ouais. Je suis tombé deux fois sur ma mère. J'ai tellement peu de matchs que je pense que la troisième fois où je tombe sur elle, je vais lui mettre un super like. Histoire quand même de pouvoir rentabiliser un petit peu ce Tinder. Et ma bio, c'est devenu en fait des phrases de Marc Lévy. Vraiment, j'ai rajouté des hobbies dont je ne connais rien. Donc ça donne un truc du style celui qui ne sait pas partager est infirme de ses émotions. L'intelligence sans celle du cœur, ce n'est que de la logique et ce n'est pas grand-chose. La solitude est un jardin où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum. Je sais pas, on dirait des phrases tatouées sur les avant-bras d'une animatrice de Rouge FM. Ça, c'est vrai. Et sinon, j'adore faire du trek, du kayak et partager des moments de bonheur futile avec quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée quand je rentre à la maison. Après une belle journée de merde et que j'ai tout sauf envie qu'on me demande comment elle s'est passée, tu vois. Ça, vraiment, voilà, ça, c'est ma bio. Et ça donne vraiment envie de me parler. Et j'ai remarqué un truc très marrant sur Tinder. Il y a plein de meufs qui mettent les gars de moins de 1m80, c'est même pas la peine d'essayer, passez votre chemin.
Ah bon?
Oui.
C'est une discrimination, ça?
Eh bah oui, moi je trouve aussi. Mais en fait, c'est étonnant parce que ce critère, il passe tout seul et ça choque personne. Alors moi, j'ai mis femme de plus de 65 kilos. C'est même pas la peine, passe ton chemin. Et j'ai l'ami un petit peu fort, ce qui m'a dit, ouais, c'est dégueulasse, les gros, ils choisissent pas d'être gros. C'est vrai, c'est pas faux. Et moi, j'ai choisi de faire 1m60. Je me suis enlevé les tibias à 16 ans, pas que j'avais l'air si je connaisse. Et en plus, si moi, je mets une limite de poids, c'est pas pour être dénigrant, mais pour préserver mon intégrité physique, quoi. C'est... Bah oui, il y a que les poules qui peuvent s'asseoir sur des œufs sans les casser. Et pour me venger, je me suis fait un profil de basketteur. J'ai mis une photo de l'équipe de Fribourg Olympique parce que c'est une photo d'équipe de basket. Il y a toujours au moins une personne qui te reconnaît, qui te ressemble. Mmh. Et j'ai mis cette photo. J'ai dit que je mesurais 1m98. J'ai pris 2-3 photos de moi avec un ballon de basket. Ouais. Alors j'ai matché avec Svetlana, jeune mannequin de 23 ans, qui habite à Zurich. Je lui ai donné rendez-vous au Chantilly. Donc elle a dû venir jusqu'à Fribourg. Hein. Parce que ça sonne un petit peu moderne le Chantilly. C'est vraiment un truc si tu connais pas, c'est assez incroyable. Mmh. C'est comme frappe. C'est bien jusqu'à que tu le prononces FRAP, tu vois, c'est les gens de Radio Fribourg comprendront. Et franchement, quand elle est arrivée, quel plus grand bonheur de lever les yeux vers le visage de la jeune Svetlana au moment où ses hanches viennent heurter mon front, voir ce doux visage se décomposer au moment où je lui murmure en la regardant dans les yeux. Tu bois quand même un verre. C'est vrai qu'elle est partie. Et tout ça pour dire que la discrimination, si petite soit-elle, c'est pas très bien. Et que le célibat à deux, c'est mieux. Voilà. Ouais. Bisous.
Merci beaucoup, David. David, on peut dire que c'est un homme à la hauteur, hein, quand même, dans tous les sens du terme. Hein.
En tout cas, à la hauteur de sa réputation.
Oui, parce que disait Coluche, du moment que tu as les pieds qui touchent par terre, c'est que tu as les jambes de la bonne longueur. Hein. C'est le plus
Mimati
important.
Mimati disait la même chose.
Voilà. On a tous nos références. Hein.
C'est vrai.
David, des réseaux sociaux, des adresses internet sur lesquelles on peut te retrouver. Tu as 30 secondes pour faire ta promo. Là.
Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, David Vida. Sur Tinder, ma bio, vous ne la loupez pas. Et puis sinon, au Trap, donc toujours à la rue de Morat 1 à Fribourg, il y a la scène ouverte jeudi prochain.
Ah, bien
donc,
ça.
Il y a plein de nouveaux humoristes qui se lancent, et puis l'entrée est gratuite, c'est à 8h, vous pouvez réserver à l'office du tourisme, et puis il y a Christian Moukouna qui vient le 10 juin, la semaine prochaine aussi, c'est un artiste neuchâtelois, un humoriste neuchâtelois qui est très très bon, donc on veut remplir cette salle, mais au max, donc la même chose, prenez vos billets à la Fils du tourisme. L'office du tourisme.
C'est dommage, t'étais super bien parti, mais il a un peu cafouillé, là. C'est l'émotion, dirons-nous.
Ouais, hein.
Allez, tous au Strap, effectivement. Il y a des sacrés talents à découvrir, à redécouvrir là-bas. Merci beaucoup, David Vida. Tout à l'heure, Jonathan pour une enquête musicale. Et puis, nos people, hein, qui nous font rêver depuis très tôt ce matin. Elisabeth II, Johnny Depp et Amber Heard également. Il y en a pour tous les goûts. La suite de Jamais 203. Après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Je vais vous parler de l'incroyable histoire d'une tomate disparue. Le problème, c'est qu'elle était dans la Station Spatiale Internationale. Alors vous pensez bien qu'il n'y a pas un million de plants de tomates. Hein. Ça fait 8 mois qu'on cherche cette tomate quand même. Elle était enfin retrouvée à bord. C'est l'astronaute américain Frank Rubio qui avait été accusé de l'avoir mangée. Bon, il était mis hors de cause. Pas une tomate qui se perd comme ça dans l'espace, c'est un peu compliqué. Hein, parce que les parois de l'ISS sont recouvertes d'un enchevêtrement de fils, de mécanismes et d'équipements en tout genre. C'est pas étonnant donc d'y perdre quelque chose, surtout en micro-gravité. Et surtout s'il s'agit d'un élément très petit comme un stylo, une épingle à cheveux ou une tomate cerise. C'était un peu le running gag. Bah oui, faut bien rire dans l'espace quand même. Hein. Ouais, Franck, t'as perdu la tomate, tu l'as mangée, c'est tout. Ouais, ouais. 8 mois plus tard, petite tomate sèche retrouvée. Franck Rubio avait déjà passé pas mal de temps à rechercher cette tomate désespérément sans succès. Mais 2 semaines avant le retour sur Terre de toute l'équipe, la tomate a fait sa réapparition dans un sac. Un sac qui contenait des pièces cassées, des satellites et d'autres équipements. Voilà une affaire enfin résolue. Mais on ne sait toujours pas qui a tué le colonel Moutarde.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Kongs sur Radio Fribourg. Bon ben, on va parler d'une voiture autopilotée.
Ah oui,
on a parlé de ça, c'est un grand sujet. Est-ce que on peut faire confiance à l'état, en l'état actuel en ces voitures qui se pilotent toutes seules
et... Comme les Tesla justement.
Comme les Tesla d'ailleurs, oui.
Et on a une actu justement qui est concernée ce matin. On est tombé sur cette actu d'une Tesla autopilotée qui a terminé sa course dans une rivière. Elle a été percutée par une autre voiture. C'est ça en Chine. Elle s'est fait percuter par une autre voiture à un